parle sur la base de mes expériences aux Nations Unies, la Banque mondiale, l'OTAN et le ministère des Affaires étrangères du Canada. Et j'ai quand même servi dans le contexte 10 missions onusiennes, maintien la paix, opération militaire, opération humanitaire. Une mission avec la Banque mondiale et l'OTAN et le ministère des Affaires étrangères. Et je le mentionne parce que ce que je vais vous présenter, c'est une analyse simple, empirique, comparative de ce que j'ai vu dans chacune de ces situations et ce que je crois, ce sont des petits problèmes, je ne mentionne pas les grands, qui ont déjà été mentionnés, des problèmes institutionnels, des problèmes administratifs, des problèmes de conception, des problèmes de leadership, qui sont tout à fait réglables, qu'on a les moyens, si on a les désirs de le faire. Je suis tout à fait d'accord avec ces grands mouvements de réforme des Nations Unies, le rapport de Brahimi, le plusieurs rapports de Pitt-Gilding et tout ça. Mais je crois qu'on ne touche pas à l'intérieur du système des Nations Unies. On le considère comme quelqu'un d'homogène, un grand bloc international, un peu inaccessible, qui est là, qui existe depuis toujours, qui est bleu et blanc et qui fait la paix. Mais en fait, c'est une bureaucratie essentielle, qui a une mission très importante pour le monde, mais en même temps, elle est composée des êtres humains. Et à cause des différents problèmes au niveau de la création et l'architecture institutionnelle des Nations Unies, on trouve que dans chacune de ces petites failles, il y a un peu l'essence ou la source des grandes faillites des Nations Unies au bout du temps. Par exemple, quand vous mentionnez l'inhabilité des Nations Unies à l'utilisation de la force, oui, il y a les caveats des forces militaires, il y a les institutions politiques, il y a les enjeux géopolitiques, mais aussi la nature de l'évolution et la transformation de l'information à travers le système onusien. Disons que la paperasse, ça joue quelque chose. Et c'est très important. Alors, il y a plusieurs endroits dans le système où on pourrait faire l'analyse pour lancer des réformes. Mais je vais parler quand même de quatre éléments principaux. La première, c'est la imputabilité et les notions d'imputabilité. La deuxième, c'est la vision intégrale de ce qu'on cherche à faire avec les opérations de maintien de la paix, les opérations de consolidation de la paix et en général tout ce qu'on fait au niveau des Nations Unies. Le troisième élément, c'est la transparence. Et le quatrième élément, c'est la sostenibilité. Dans ce qui concerne l'imputabilité, quand j'étais fonctionnaire des Nations Unies, j'avais un certain degré d'immunité diplomatique, mais je suis aussi un fonctionnaire. Et je dois rendre compte à ceux qui je sers. Sans qui? Oui, ce n'est pas juste Ban Ki-moon, ce n'est pas juste les pays membres, mais aussi c'est les gens à qui je dois servir. Donc, c'est une notion comme n'importe quel autre fonctionnaire public, au niveau international, à qui est mon patron et qu'est-ce que je dois rapporter. C'est un grand problème parce que la rendition des comptes n'est pas un processus clair à l'intérieur des Nations Unies. Dans la création du système, les salaires des fonctionnaires des Nations Unies ont été créés sur la base d'un principe qui s'appelle le principe du noble maire. C'est un principe selon lequel les salaires des fonctionnaires des Nations Unies sont basés sur la base des échelles salariales d'une fonction publique. La fonction publique la mieux payée parmi tous les États membres. À l'époque, la création des Nations Unies, c'était les États-Unis. Donc, on prenait le niveau de salaire des Américains, des fonctionnaires civils américains, comme la base sur laquelle on allait construire les salaires pour tous les fonctionnaires des Nations Unies. L'envers de la médaille, c'est que si on avait aussi les principes au niveau des salaires et de la. Et de l'assignation de ressources à ses employés, il y a aussi des choses essentielles au niveau de quels sont les standards de performance, quels sont les standards d'opération, quel est le niveau de professionnalisation nécessaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a adopté au système des Nations Unies juste à la moitié. On a adopté les principes d'échelle salariale, mais les principes de comptabilité, rendition de comptes et médition de performance ne sont pas là. Il y a plusieurs initiatives, une après l'autre, depuis toujours, pour mesurer les performances des fonctionnaires des Nations Unies. J'ai vu pas mal, plusieurs dans le contexte, mais à chacune, il y a toujours un petit problème structurel au niveau de la leadership, au niveau de l'implémentation de la réforme. Donc, c'est toujours des implémentations incomplètes. Et ça joue aussi au niveau de la performance de ce qu'on fait. Quand je parle de vision intégrale et de ce qu'on voudrait faire avec une vision des Nations Unies, je parle par exemple du fait que quand c'est du politique, quand c'est de l'opération maintien de la paix, c'est toujours fait sur la base d'une conception politique de la chose. Mais si vous allez faire de la stabilisation en Haïti, c'est pas juste des soldats, c'est pas juste des casques bleus, c'est l'économie, c'est la société, c'est la culture. Et généralement, on utilise les moyens qu'on a, c'est-à-dire les moyens politiques, et on a tendance à simplifier la complexité du problème juste pour qu'on puisse utiliser seulement les moyens qu'on a du côté politique. Dans le cas d'Haïti, par exemple, j'ai pu vivre la transition entre employés des Nations Unies et employés de la Banque mondiale. Et pour les simplifier, à l'interne des Nations Unies, on parle politique, mais on ne fait pas l'analyse économique. Et quand on transfère pour la Banque mondiale, on fait l'analyse économique, mais on ne parle pas politique. Et la collaboration, on l'a mentionné plusieurs fois, il y a des rapports qui prônent pour une intégration de deux côtés, pour qu'on fasse une analyse complète de la situation, mais on ne le fait pas. Il y a plusieurs barrières institutionnelles, il y a des barrières aussi au niveau personnel. Les gens des Nations Unies ne sont pas nécessairement bien vus du côté de la Banque mondiale. Les gens de la Banque mondiale, même s'ils voudraient, même s'ils ont les droits, ne sont pas nécessairement tous intéressés à faire les transferts et se faire intégrer dans une mission des Nations Unies. Et ça arrive assez souvent. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des gens qui ont fait les deux. Mais cette intégration est responsable des grands défauts au niveau de l'implémentation des choses. Par exemple, dans la situation d'Afghanistan, depuis 2002 jusqu'à 2007, on a mis trop l'accent sur les côtés politiques. Les réformes constitutionnelles, les élections, la démocratie. Et on ne payait pas assez attention, on ne donnait pas vraiment, on ne mettait pas l'accent sur les côtés économiques. Et 2007, dans la deuxième convention, dans la deuxième réunion de Bonn, on s'est rendu compte qu'on était en train de manquer les bateaux. Et on a refait et remis l'accent sur les côtés socio-économiques, mais un peu trop tard. Le troisième élément dans ce qu'on cherche à faire dans une mission de maintien de la paix, c'est que si on parle des consolidations du peacekeeping, chapitre 7 ou peacekeeping chapitre 8, où on parle d'une consolidation sécurité pour une après catastrophe naturelle, on doit quand même chercher à comprendre la complexité de ce qu'on a devant nous. La interaction entre les bailleurs de fonds et les différentes entités à l'intérieur du système des Nations Unies fait une sorte de marché où chacun veut absorber le maximum des financements. Donc, ça donne quoi? Ça donne par exemple que lors de la dernière situation humanitaire en Irak, dans le nord de l'Irak, l'Arabie Saoudite a donné 500 millions pour répondre à la situation humanitaire. Toutes les agences se sont mises à préparer des projets pour répondre à cette agence humanitaire. Mais, alors, c'est tout à fait clair, si UNICEF, qui s'occupe des enfants, de la santé, de l'eau et des choses comme ça, mettait un projet pour 200 millions. Mais ça donne aussi des situations comme quoi UNESCO avait proposé des projets pour 600 millions. Et des agences qui n'ont rien à faire dans le contexte humanitaire proposer des choses dans le contexte humanitaire. Des agences qui sont dans le contexte humanitaire qui proposent des choses dans le contexte du développement. Parce qu'à la fin, on se réforme, on se réinvente par rapport aux besoins du bailleur de fonds. Ça, c'est problématique parce qu'à la fin, on est tous dans tout. Et au niveau de la transparence, oui, il y a une immunité. On ne peut pas nécessairement demander aux gens des Nations Unies, pour plusieurs raisons tout à fait légitimes, d'être vraiment sur l'autorité d'un système légal sur place. Si je suis fonctionnaire des Nations Unies, ma capacité de faire mon travail, ça serait un peu mise à l'épreuve si je devais rendre compte au système judiciaire irakien dans ce que je fais. Mais cette immunité diplomatique peut avoir différents degrés d'implémentation et ça donne aussi à certains ordres. Ça, c'est très important à savoir. Donc, vous avez entendu parler des soldats, des casques bleus qui ont eu des situations d'abus sexuels en République centrafricaine. Comme la rédévabilité, comme les renditions des comptes, les processus de à qui on doit rendre des comptes n'est pas clair, la responsabilité joue toujours comme dans un cercle. On essaye de passer le ballon à quelque part. Et ça, ça fait que ça nuit à l'institution parce que garder le secret, c'est peut-être plus important que faire face au problème. Et ça, c'est répétitif. Ça arrive partout. Tous les diplomates canadiens qui ont travaillé dans les Nations Unies vont reconnaître dans les paroles une ou deux situations ici et là. Mais je ne dis pas pour critiquer l'institution. Je dis parce que on doit vraiment chercher à transposer notre niveau de gouvernabilité, notre caractère, notre façon de faire dans le système. On doit aller le chercher, on doit demander à nos diplomates d'aller voir qu'est-ce qui se passe, de dire on doit savoir, c'est notre institution, c'est très important de les impliquer. Le quatrième élément que je voudrais mentionner, c'est la sostenibilité. Par exemple, quand on se lance dans une opération de maintien de la paix, soit on le fait de la façon normale, c'est-à-dire on lance le mandat, on demande aux différents pays de nous donner différents soldats, et avec ça, on va lancer une mission sur place. Et tout vient d'ailleurs. Donc, dans une mission, par exemple, comme celle de Liberia, où j'étais, ça fait 13 ans que cette mission existe sur place. C'est une mission que, si on mesure le succès sur la base de « Avez-vous arrêté la violence ouverte ?» Oui. Avez-vous fait quelque chose pour arriver à avoir la paix ? Non. Parce que l'absence de violence n'est pas la paix. Et dans ces cas-là, cette mission est complètement dépendante d'un système d'achat public à l'externe du pays. Donc, c'est l'argent qui rentre dans le pays juste pour les dépenser, mais qui n'a pas de retombées économiques sur l'industrie locale. Donc, en 2012, on cherchait à faire l'analyse, de déterminer si c'était le temps de finir avec la mission et transférer les forces, sortir les soldats. Et un des grands éléments, un des grands obstacles qu'on n'est pas les faire, c'était pas que la situation n'avait pas changé, c'était pas nécessairement que le pays était dans un état d'instabilité. C'était le fait que si on sortait la mission, les coûts économiques pour l'économie locale seraient trop traumatiques. Donc, c'est une situation de codépendance et là, on manque les bateaux parce qu'on n'arrive pas nécessairement ni à faire un transfert des capacités, ni à faire un transfert économique. Il y a un Canadien, Stephen Gilmore, qui a fondé une institution qui s'appelait Peace Dividend Trust à une époque. Là, il ne travaille plus avec cette agence. C'était de dire, si vous allez acheter une chaise, si vous allez acheter du bois pour faire des baraques, pourquoi vous devez faire venir ces baraques? Pourquoi vous devez vous faire venir le bois de l'Italie, tandis qu'il y a plein de bois au Libéria? Et ce sont des choses qui nous montrent jusqu'à quel point la façon de concevoir les missions, la façon de concevoir les opérations des Nations Unies, oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer au niveau stratégique, mais au niveau de gestion de tous les jours, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et on ne les fait pas. Parce qu'on ne les touche pas. On regarde tout comme si c'était juste une question d'une institution dans une autre planète. Si on met les mains à l'intérieur, on va voir plein de choses qu'on peut changer. Et aussi, quatrième élément là-dessus, c'est que le Canada a un capital très, très, très important. Parce qu'une chose que vous allez avoir la certitude, c'est que n'importe dans quel endroit ou une mission des Nations Unies, vous allez avoir des Canadiens. Ça soit les bilinguisme, ça soit l'intérêt commercial, ça soit les capacités des gens, ce pays produit des gens qui travaillent aux Nations Unies comme une machine. Il y en a plein. Et ça, c'est un capital politique, c'est un capital social, mais c'est aussi une responsabilité pour nous, parce que nous devons transférer notre gouvernance vers ce niveau international, et pas l'inverse. Donc, je vais juste finir pour vous dire que dans ce que je vais présenter comme mémoire, il y a plein d'autres petites analyses des endroits, des points d'insertion où on peut faire des transformations. Mais une chose essentielle, c'est que, oui, faisons les grandes réformes au niveau stratégique, mais au niveau de tous les jours, il y a plein de choses à faire et c'est juste une question de comment ça se fait. Merci.
Merci beaucoup.